Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Je fais pas de muscu, moi.
Tu fais pas de muscu, arrête tes conneries. Arrête tes conneries.
Tout est naturel, vraiment.
Arrête tes conneries, ouais.
Je fais zéro muscu.
Tu sais, c'est triste hein, de dire ça comme ça. Mais pour moi, quand t'es en dépression, tu te rends compte des vraies choses.
Mais il faut aussi qu'on mette plus l'importance sur qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Au lycée, j'étais un des rares qui me posait vraiment la question. Tout le monde était en mode freestyle, en mode on verra. Non, on verra pas, mec. Il y avait eu un sondage, ils avaient fait un classement des mecs qui préféraient. J'étais tout dernier. Elle m'aimait pas. Je me suis dit, faut remonter dans la liste, tu
vois. C'est horrible, ça.
Oh, c'est horrible, bien
c'est
sûr.
C'est horrible, mec.
Bon.
La pression, la pression. Qu'est-ce qu'il va me demander?
Est-ce que ça va, Arthur?
Ça va bien, et toi?
Ça va bien. On est à Montpellier pour ce tournage, donc la ville où tu es.
Exact.
Et c'est le podcast le plus tard qu'on enregistre depuis le début de ce podcast.
Dès quelle heure?
Vas-y, dis-moi. Minuit passé.
Ouais, minuit passé.
Minuit passé, ouais. Bah, en même temps, on s'est entraîné. Mon train, il avait 4 heures de retard.
Beaucoup plus, frère. Ça fait un jour que je l'attends, vraiment.
le train devait arriver à 14 heures. Non, à 13 heures. Je suis arrivé à 17h30 à Montpellier. Et je t'ai envoyé les snaps, les gens. Il y a des mecs qui se sont battus dans mon train.
Ouais.
C'était le wagon, mec, le plus infernal de France.
T'as eu que des galères.
Ouais, que des galères. Bref. Donc,
mais j'étais plus sûr de venir te chercher. Je me suis dit, bon, j'ai d'un truc de prévu quand même.
Je suis content d'être arrivé, je te jure, je suis content d'être là, en fait. Et donc, je suis bien arrivé à Montpellier. On s'entraîne ensemble. Bon, tu m'as montré un petit peu la ville de Montpellier. Et donc, là, c'est cool, mec. Ça fait plaisir de te rencontrer.
C'est
en vrai, c'est la première fois.
Merci de m'inviter sur ton podcast. C'est un honneur pour moi. J'écoute tes autres podcasts.
C'est
avec
vrai
attention,
ah, c'est cool.
Bien sûr.
Mais en même temps, c'est un groupe que tu connais bien, les personnes que j'ai interviewées sur le podcast jusqu'à présent. Donc, c'est cool que tu sois là aussi, parce que moi, ça fait quelques années que je te suis. Je t'avais dit, la première fois que j'ai vu apparaître une vidéo de toi, c'était le reportage en musculation. Donc, ça fait quelques années. J'étais pas là à l'époque de B-Boy Arthur, mais depuis Arthur Moza, je suis, depuis que ta chaîne s'appelle comme ça. Et ouais, c'est cool. Comment est-ce que tu te définis, toi, lorsque on te dit tu fais quoi sur YouTube?
À chaque fois, je bégaye, hein.
Ouais.
À chaque fois, je fais la pire impression possible. Je peux être sûr que, heureusement, il y a un pote avec moi pour me présenter mieux à chaque fois, mais non, je dis, je fais des expériences extrêmes, mais je passe pour un con, tu peux être sûr. Je dis, ouais, ben, je teste des modes de vie, extrême, genre 7 jours sans manger, 3 jours sans dormir.
Tu fais des expériences?
Je fais des expériences, ouais.
Ok.
Ouais, mais c'est ça que je dis.
Mais tu les fais bien. Tu les fais bien.
Ouais,
et...
J'espère.
Non, c'est vrai, tu les fais bien.
Merci.
Et bah, d'ailleurs, on va partir direct là-dessus. Ta dernière vidéo, c'était une vidéo un peu qui aurait pu faire polémique. Tu as testé.
J'ai pris du LSD pendant 30 jours.
C'est ça.
LSD pendant 30 jours.
Tu as testé du microdosage.
Voilà, c'est ce qu'il faut préciser. Ah. J'ai pris des petites doses. Voilà. C'est la douille. Il y a toujours une douille de façon dans tous les titres YouTube.
Ouais, ouais. Mais c'était à but
non lucratif.
Non lucratif et surtout à but professionnel, on va dire. C'était aussi dans un but de voir si ça allait t'aider dans ta créativité.
Tu veux que je pitch?
Ouais, vas-y, pitch
le but.
C'était quoi le but de cette vidéo?
Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, en gros, il y a une pratique que pas beaucoup de monde connaissent, mais en fait, tu peux prendre des petites doses d'une drogue dure qui est vraiment illégale. Tu peux prendre des petites doses et ça peut avoir des effets bénéfiques. Mais personne n'en parle, tu vois, parce que tous les gens disent, faut pas toucher à tout ce qui est drogue, tu vois. Mais à petite dose, ça peut ne pas être si mauvais que ça. Et c'est ça que j'ai testé. J'ai pris des petites doses de LSD, du coup. Et il s'avère que ça booste ta créativité. En fait, le LSD, c'est une drogue qui te donne des hallucinations et tout. À petite dose, ça peut booster ta créativité. Et c'est ça, en fait, que j'ai testé. Il y a plein d'autres effets positifs. Faut pas que je regarde la cam, peut-être. Tu m'as prévenu
pas,
sur comment faire. Parce que...
Ouais, tu peux me regarder, tu peux
non,
regarder la caméra,
sais,
c'est pareil.
J'aime bien quand on regarde les cams, parfois.
Non, en vrai, tu peux me regarder, moi, c'est ce qu'on fait. C'est ce
ça
qu'on
marche.
Fait d'habitude.
Je te regarde,
D'ailleurs, on va en reparler, mais donc ouais, en effet, ça m'a surpris le titre de la vidéo. C'est pas un titre que tu vois tous les jours sur YouTube, mais en fait, j'ai remarqué que en effet, il y a beaucoup de personnes. Je vois beaucoup de personnes parler des psychotropes de manière générale depuis quelques années, surtout les adultes. Tu vois, il y en a qui en prennent pour certains traumatismes. Il y en a qui, par exemple, Mike Tyson, tu vois, qui en parlait pour lui ses problèmes de. À force d'avoir fait tellement de boxe, il a des problèmes qui peuvent arriver sur le long terme sur son. Je sais même pas à quelle partie dans quelle partie du cerveau, tu vois, mais en effet, c'est sûr que prendre des coups dans la tête H24, c'est pas forcément bon pour ta santé mentale à long terme. Et il parlait de l'aide des substances comme celle-ci. Toi, c'était un but plus créatif, voir ce que ça pouvait t'aider à faire. Et donc, t'as pas eu d'hallucination, tu m'as dit. Non, comme non. C'était un micro-dosage.
Aucune hallucination.
C'est ça qu'il faut préciser, en fait, parce que.
Oui.
C'était vraiment.
Bien sûr. Quand t'as le titre comme ça, le but, c'est de te faire réagir en mode, mais non, mais qu'est-ce qu'il raconte ce mec? C'est impossible. Il est totalement débile. C'est le but d'un titre. Mais la vérité, c'est que c'est une vraie pratique derrière. Et effectivement, c'est du micro-dosage. C'est une vraie pratique qui vient de la Silicon Valley. Donc, c'est les entrepreneurs et tout. C'est pas des mecs de la street qui s'en battent les couilles de tout qui font ça. C'est vraiment des entrepreneurs et tout. Et ouais, le but, c'est à petite dose, même pas tous les jours, parce qu'il y a vraiment un protocole pour éviter l'accoutumance et tout. Et le but, c'est vraiment d'être plus productif.
Ok, t'as suivi, ouais, c'est ça, t'as suivi un vrai protocole. Bah, de toute façon, tu le dis dans la vidéo et tu le dis dès le début, donc moi, j'ai vite compris l'intérêt de ça par rapport à la créativité, par rapport... d'ailleurs, tu disais que tu rentrais dans le flow avec cette pratique et c'est intéressant parce que c'est un état que beaucoup de personnes créatives recherchent et toi, t'as réussi à rentrer dans le flow avec ce micro-dosage, justement.
Exact, ouais, je suis rentré systématiquement le jour même des prises de LSD parce que... On dit que le lendemain des prises, en fait, ouais, je vais pas vous expliquer le protocole, mais effectivement, chaque jour où j'ai pris du LSD, je rentrais dans un état de flow, c'est-à-dire tu peux travailler, tu penses même plus à ton portable, t'es pas en train de checker si t'as des notifs, genre, t'es dans ton taf.
Ok.
Voilà, il y a des effets positifs, ça veut pas dire qu'il y a pas d'effets négatifs.
Ouais, t'en parles un petit peu quand même, tu faisais un peu de prévention là-dessus, tu disais qu'il y avait la fatigue, il y avait quoi dans les effets négatifs?
Déjà, il y a des fois, en fait, après, comme je t'ai dit, si tu veux vraiment tirer des vraies conclusions, faut pas tester sur un mois, faut tester sur un an, parce que c'est comme les compléments alimentaires. La vérité, ceux qui disent oui, ce complément alimentaire, il m'aide, c'est des mythos. T'en sais rien vraiment, ça t'aide ou pas, parce que mec, ça dépend de 1 milliard de facteurs, sauf peut-être pré-workout, ça peut te booster, mais t'as l'effet placebo aussi. Et, ouais. Non, je t'ai dit sur un mois, c'est court de tester le LSD.
La fatigue, t'avais dit?
En effet secondaire, il y a des fois, j'avais, ouais, mal à la tête. La fièvre un peu genre le front chaud, tension musculaire, c'est incroyable, genre t'es là, c'est comme si tu tenais comme ça toute ta journée, t'es obligé de t'allonger pour détendre ton cou.
Okay.
Quoi que tu fasses, ton cou il se détend pas, tes muscles ils sont, ouais, j'avais ça parfois mais très rarement. Okay. Très rarement au final, mais il y a quand même des effets. Si tu prends du LSD trop tard, tu vas avoir du mal à dormir, tu vas faire que penser. Il y a faut faire gaffe, puis c'est même pas ça, c'est que c'est faire gaffe, c'est une drogue, frère, quand même.
Bah tu le dis de toute façon dans la vidéo, c'est illégal.
C'est surtout ça, juste ça, franchement tu t'arrêtes à là, c'est suffisant.
Mais d'ailleurs bah j'ai attendu de t'en parler maintenant dans ce podcast, tu sais, on a eu des petites discussions avant, je t'avais dit cette discussion je la garde pour le podcast. Moi mec, ça me fait flipper de ouf tout ce qui est substance psychotrope, même substance hallucinogène. Je comprends. D'ailleurs, je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui en parlent pas, parce que comme t'en parlais, il y a des entrepreneurs qui utilisent des substances comme celle-ci pour être plus productifs, pour rentrer dans le flow. C'est sûr que c'est un avantage par rapport à certaines personnes si t'arrives à rentrer dans le flow systématiquement et oublier toutes les distractions. Mais mec, ça me fait flipper, moi, ce genre de truc, parce que j'ai trop peur que ça réinitialise mon cerveau d'une façon où j'ai plus l'impression d'être moi, tu vois. Je trouve que
Perdre de contrôle.
Ouais. Alors déjà, c'est vrai. Je suis un gars qui a du mal à perdre le contrôle de ce qu'il fait, c'est vrai que c'est une des peurs. Et aussi l'aspect, ouais, je sais pas si est-ce que je serai une nouvelle version de moi-même ou mon cerveau fonctionnera différemment. Tu vois, ça me fait peur parce que c'est pas. Et puis surtout, je pense que ouais, j'ai vu quand même il y a assez peu de personnes qui recommandent qui disent qu'elles sont satisfaites d'avoir testé, tu vois, à un moment, je trouve. Et qu'est-ce que t'en penses d'ailleurs? Est-ce que t'as...
Moi, tous les gens à qui m'en ont parlé, ils ont dit, dans tous les cas, négatifs ou positifs, ils ont dit, regrette pas d'avoir testé.
Ils ont appris des choses.
Ouais, ils ont dit, je regrette pas d'avoir testé. Que ce soit nul ou bien, il y en a, ils m'ont dit, c'est claqué, cette drogue, elle est claquée. Ou alors, cette drogue, c'était incroyable, ils me disent, je regrette pas.
Mais c'est ça, c'est une drogue, en fait. Le mot me fait peur, en fait. Et ouais, le mot devrait faire peur, d'ailleurs.
Mais frère, c'est compliqué quand toute ton enfance on te dit ça, faut pas toucher. Après, j'ai envie de dire la vérité, la vérité. C'est pas pour inciter. Mais mec, moi perso, j'ai pas envie de mourir et de pas avoir testé un truc. Des hallucinations, frère, une fois dans ta vie, faut voir ça. Enfin voilà, je vais pas aller plus loin que ça, ne touchez pas à la drogue.
OK, mais j'avoue que le début de ce podcast, il est vraiment différent de d'habitude, mais parce que en effet, c'est ta dernière vidéo, tu
podcast vois. Avec un camé, un crackhead.
Non non, c'est pareil en plus, tu vois, t'as un mode de vie.
Non, je suis carrément.
Mais c'est ça, mais de toute façon, les gens qui te suivent savent que bah t'es un sportif, t'as des modes de vie, t'as un mode de vie sain, mais c'est vrai que tu fais des expériences un petit peu extrêmes. T'as fait une expérience ne pas manger pendant 7 jours. Expérience ne manger qu'un seul fast-food pendant 7 jours, enfin des expériences souvent ne pas boire pendant 3 jours,
pas
comme
encore
ça.
Fait.
Non, ne pas manger.
Spoil mes vidéos, vas-y.
Ne pas dormir pendant 3 jours, c'est ça ?
Ouais, c'est ça.
Enfin bref, des expériences un peu extrêmes. Et celle-ci, c'était une expérience plus marquante qu'une autre, je pense. Mais donc ouais, ça m'a fait poser plein de questions et je pense pas vouloir tester prochainement. Mais c'est vrai que c'est une pratique comme une autre, ce fameux micro-dosage. Et j'espère pouvoir rentrer dans le flow créatif moi-même sans avoir à utiliser ces substances.
Bah, mais en effet, ça doit t'arriver quand même d'être dans le flow parfois.
Oui, ouais. Mais en effet, c'est sûr que je suis aussi dans cette démarche-là de profiter au maximum de vivre la meilleure existence possible. Et c'est vrai que pourquoi pas. Mais j'ai tellement envie de garder ce contrôle dans ma vingtaine que j'imagine pas. Voilà, c'est pas possible pour moi en ce moment.
T'as raison, mec.
Ah, j'ai raison?
Bah, t'as raison, mec. Moi, j'y vais plus y toucher du tout.
Ah bon?
Mais bien sûr.
Mais parce que la façon
c'est juste pour tester un mode de vie que okay, certaines personnes testent.
Ok.
Mais moi, c'est pas mon délire du tout de faire ça.
Ok.
Mec, toutes mes expériences, c'est juste pour tester les modes de vie d'autres personnes. Mais moi, mec, je vais plus jamais y toucher.
Ok.
Bien sûr.
Ah, mais je savais pas, on en a pas parlé de ça.
Ah, tu croyais que j'allais continuer, moi?
Non, parce qu'en fait, on parlait du flow, tu disais le fait de vivre une vie où tu testes des choses. Je sais pas, j'avais l'impression que t'allais retenter
tout,
de temps
une
en
fois,
temps.
Après, je touche plus.
Ok, intéressant.
Non, mec, mais j'ai dit dans la vidéo, je veux pas dépendre d'un produit pour me booster. Après, tout ce qui est complément alimentaire, c'est différent. Parce qu'il y a des études dessus, tu sais que ça va pas te buter. Mais non. Moi, c'est juste tester le mode de vie de certaines personnes pour faire une vidéo dessus, documenter, apprendre des choses. Après, c'est finito. Tu touches plus.
Ok, intéressant. Et donc ça, c'était ta dernière vidéo YouTube actuellement. Comment est-ce que tu... Donc, ouais, tu m'as dit comment tu te définissais, youtubeur qui tente des expériences. J'ai écouté, je t'ai dit, quelques podcasts sur toi en arrivant en train. Et le dernier podcast que tu as enregistré, c'était avec Eric Flagg il y a un an et demi. C'était en juin 2020. Et à cette période-là, tu étais encore étudiant et tu étais en école d'art. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton parcours et on va parler aussi de ta décision d'avoir arrêté tes études pour te lancer à fond sur YouTube?
Ouais, bien sûr.
C'est quoi ton parcours?
Mon parcours, comme tout le monde, je suis allé jusqu'au bac S que j'ai réussi avec la mention bien.
Bien joué.
J'ai zéro effort, j'ai tout niqué, t'inquiète pas.
Bien joué.
Et après, j'ai fait une école d'art privée, tu vois, c'est-à-dire, je suis pas passé par Parcoursup ou quoi, j'étais pris bien avant Parcoursup. Donc moi, j'ai tout le temps été différent de tout le monde autour de moi, j'étais tout le temps... Tu vois, quand eux, ils étaient en train de dire « Est-ce que je vais être accepté dans mes vœux ?» Moi, ça faisait 5 mois, je savais, j'étais pris dans mon école privée, peu importe si j'ai le bac ou non. J'ai tout le temps été différent dans un autre monde. Et bref, j'ai été pris dans mon école d'art. C'était ce qui se rapprochait le plus de ce que je voulais faire. YouTube, j'étais dans une école d'art numérique, c'est-à-dire que tu faisais tout ce qui est Photoshop, montage, du dessin. C'était pas mal de la pub. Franchement, c'était lourd de ouf. Après, 8000 euros par an. Ça pique un peu.
C'est souvent ça, les écoles privées. Hein. C'est à peu près le même
bien
prix.
Bien sûr, bien sûr. Et puis avec des diplômes pas reconnus.
C'est souvent ça aussi, d'ailleurs. Ouais.
Qui disent qu'ils sont reconnus, mais pas vraiment.
Ouais.
Et de toute façon, reconnus par qui? Parce que, mec, dans aucune entreprise, on te dit, c'est quoi ton diplôme? Ok, je te prends, non. Dans tout ce qui est art, c'est le portfolio. Il y a que ça qui compte, frère. Le portfolio.
Donc, tes créations, c'est ça?
Bien sûr, mec. Ouais. T'as pas besoin de faire d'école d'art. Mais je vais pas trop digresser. J'ai fait une école d'art que j'ai arrêtée au bout de 2 ans. Je suis allé jusqu'au bout des 2 ans, donc aucun diplôme au final, et après, ouais, sur YouTube.
Ok.
Tu veux que je développe ou...
Bah, ce qui est marrant, c'est que donc cette dernière interview, tu l'avais faite en juin 2020, et à cette époque-là, tu disais qu'il te restait un mois avant la fin de tes études, et que tu savais déjà à ce moment-là que tu allais te lancer à plein temps sur YouTube, parce que tu veux commencer à en vivre, et que tu t'amusais plus surtout dans, tu te voyais plus à l'avenir faire des vidéos YouTube parce que c'est ta passion depuis 5-6 ans. Ça fait 5, 6, combien de temps que t'as lancé ta première vidéo YouTube? C'est ça. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir maintenant, donc ça fait un an, plus d'un an et demi que t'es à plein temps sur YouTube. Est-ce que c'était comme ce que t'imaginais? Et qu'est-ce que tu kiffes depuis que tu vis cette vie
Frère, c'est la vie d'artiste de ouf, frère, c'est incroyable.
Définis un peu ça, parce que c'est moi, je sais ce que tu veux dire, mais...
Bah gros, c'est exactement ce que je pensais, gros. C'est, tu te lèves, t'as qu'un seul truc à penser, tu fais ce que tu veux de ta vie, tu te dis ok aujourd'hui, mais ça veut pas dire que tu fous rien, au contraire. Tu te dis aujourd'hui, je vais partir dans quel projet, et tu taffes à fond, et t'as qu'une seule chose dans la tête, c'est ton projet. Alors quand je faisais les cours, j'étais en mode ok, de 8 à 17... je dois travailler sur les cours, après j'ai les devoirs, et après j'ai mes projets perso YouTube. Là, full YouTube, je kiffe de ouf. Et après, t'as tout ce qui va avec, mec. En fait, comme j'avais dit, on joue tous un rôle, peu importe ton métier. Tu joues le rôle de ton métier, tu joues l'avocat si tu fais des études de droit, machin. Bah, au début, tu joues le rôle de YouTuber, et quand ça prend et que tout devient concret, frère, tu commences à devenir réellement... Et cette transition où tu deviens réellement un YouTuber, où les mecs, les gens, ils te reconnaissent dans la rue, tu fais des, enfin, tous ces trucs, frère, c'est incroyable.
Mais
je regrette pas de façon okay. d'avoir arrêté.
Ok. Bon, on en a parlé parce que, bah, d'ailleurs, tu t'es fait reconnaître, on allait à la salle tout à l'heure, tu t'es fait reconnaître à la salle. Au restaurant, non. Mais,
Ah, mec, au restaurant, si, au resto.
Ah.
Il y a une meuf, mais même toi, elle t'a reconnu.
Oui.
Je t'ai pas dit parce qu'en fait elle m'a envoyé un message et elle me fait c'est lui aussi, c'est pas un YouTuber.
Elle a envoyé un message.
Si, viens nous voir. Elle est pas venue.
Ah ouais.
Mince. Il y a une meuf, t'inquiète, elle t'a reconnu.
Ça marche. Mais du coup, ça c'est les points positifs de, en fait, tu t'attendais à la vie d'artiste comme tu dis, et en fait c'est quand même le cas. Maintenant tu peux te réveiller et ta seule préoccupation c'est de faire des bonnes vidéos YouTube.
Ouais.
Est-ce que t'as eu des points négatifs dans le sens où Tu idéalisais cette vie-là et tu te rends compte qu'il y a des points aussi négatifs qui vont avec?
En vrai, les vrais points... Alors, déjà, faut le dire, évidemment, il y a des points négatifs. Mais globalement, après, c'est vraiment... On a beaucoup de chance. Faut avouer qu'on a beaucoup de chance. Il y en a beaucoup moins que tout métier. Moi, je côtoie des gens. Faut s'estimer heureux. Mais il y en a quand même des points positifs qui sont très difficiles à gérer pour certaines personnes. Faut être fait pour ce genre de métier, de toute façon. Et déjà que si ton taf, ça va mal, tout le monde le voit. Mentalement, c'est pas facile. Si tu bides, tout le monde le sait. Ouais, les critiques et tout. Il y a pas ça dans la plupart des métiers, de te faire insulter, frère. Il y a plein de points négatifs. On peut en parler, si tu veux.
Ouais, je veux bien. Bah, ça m'intéresse parce que, tu vois, en effet, déjà, je... Oui, il y a beaucoup de points que t'as alors le but c'est pas de lister tous les points négatifs de notre métier parce que je suis comme toi, je pense que c'est un beau métier et surtout c'est pas le seul métier qui existe. Moi je suis pour le fait que les personnes trouvent un métier qui leur plaît. Nous on a un métier qui nous plaît, mais c'est pas le seul et il y en a plein d'autres, mais c'est vrai que c'est un des nouveaux métiers qui est apparu. Et tu parlais de quelques points négatifs, tu parlais de la pression de la critique. Le fait qu'on est tout le temps critiqué, que nos vidéos elles sont tout le temps
c'est pas ça le pire, ouais.
En fait, c'est pas ça le pire.
Non,
c'est quoi le... Tu parles aussi de du fait que si tu bides, ton travail est public. En fait, c'est quoi le pire selon toi?
Non, le pire c'est la pression constante. Mais tous les youtubeurs ils en parlent, la pression constante des vues, des chiffres, des stats déjà qui sont visibles par tout le monde, mais de se dire ok, cette vidéo elle marche. Après, c'est à double tranchant, c'est-à-dire que quand une vidéo marche pas, t'es au fond, parce que ça dépend de chaque youtubeur, mais moi je bosse des mois sur des vidéos, quand ça marche pas, je me dis j'ai perdu des mois de ma... Enfin, c'est compliqué mentalement de rebondir, tu te dis c'est fini, et ça mec, si t'es pas youtubeur dans ta tête, si c'est pas ta passion mec, faut que ça soit ta passion si tu veux survivre à ce genre de choses. Par contre, quand ça marche, c'est incroyable, t'es le roi du monde, tu vois. Mais vraiment, voilà, c'est quand tu bides ou qu'une vidéo marche moins bien, c'est le plus dur, je pense. Après, franchement, moi, j'ai de la chance, ça va. Ça m'arrive très rarement que ça foire, tu vois. Mais je sais que c'est vraiment le plus compliqué. Mais en fait, t'as la pression constante, constamment dans ta vie, tu dis... En fait, comme t'es autant entrepreneur, que t'as pas des horaires, tu dis... Dès que t'as un truc, il est pas très... intéressants. Par exemple, tu joues à la paix, tu dis, putain, je pourrais être en train de travailler. Parce que tu vois, il y a pas de cadre. Tu peux travailler n'importe quand. Donc, à n'importe quel moment, tu peux dire, là, je devrais travailler. Et mec, t'es, en fait, ouais, c'est ça le vrai point négatif. T'es jamais à l'arrêt. T'es tout le temps en train de travailler. Et moi, par exemple, ça impacte de ouf toutes mes relations, frère. Si la personne, elle comprend pas que, mec, toutes mes relations amoureuses et meufs, elles prennent pas ton taf au sérieux parce que c'est toi qui gères ton emploi du temps. Et du coup, t'as pas de pression super. Tu peux pas dire, c'est mon boss, il me dit que je dois travailler. Elles te disent tout le temps, mais non, mais prends du temps pour moi. Mec, c'est trop compliqué. C'est, ouais. Okay. Je sais pas si tu captes.
Je vois ce que tu veux
dire. Il y a beaucoup de points négatifs dans ce taf, mais ouais, je me plains pas, mais ouais.
En fait, le point positif premier, celui de se lever, de penser à faire la prochaine vidéo qui est notre passion, c'est, surpasse un peu tout. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup il y a quelques points négatifs. Mais tu vois, je me voyais pas du tout faire ce métier-là, par exemple, et j'ai eu beaucoup de métiers que j'aurais pu faire aussi, et je voyais toujours des points négatifs. Enfin, il y a aucun métier qui coche toutes les cases, je pense, et c'est comme bien sûr. Comme toutes les relations, il y a toujours un point négatif dans toutes les
bien
relations
sûr,
aussi.
Bien sûr, mec, tous les métiers, il n'y a aucun métier qui est parfait.
Ça, c'est ce que j'ai compris
bien
il y a quelques
sûr,
années,
frère.
Ouais.
Mais c'est intéressant de dire les points négatifs de chaque métier.
Ouais, c'est vrai.
Et il y en a plein qui me disent, ouais, j'aimerais bien être youtubeur, mais j'ai pas la motive de frère. Si t'as pas la motive, c'est mort pour toi, frère. Faut une motive, mais du turfu pour tenir. Si t'as pas trop la motive, je leur dis pas ça, tu vois, je leur dis essaye. Parce qu'au début, peut-être faut se lancer, c'est compliqué. Mais la vérité, mec, comme tous les tafs, c'est un taf super dur. Plus ce temps passe, plus c'est dur de se faire une place.
Ok.
Donc, faut que ça soit dans ton ADN de ouf.
Ok. Ok, c'est intéressant. Mais c'est souvent des points d'ailleurs qui reviennent, hein, dans les discussions que je peux avoir avec les personnes qui font le même métier. Si je repars dans j'ai fait mes petites recherches pour cette vidéo et j'ai regardé tes quelques dernières vidéos et même les toutes premières. Mais il y a une vidéo parmi les dernières. D'ailleurs, j'avais commencé sous cette vidéo parce qu'elle m'avait marqué plus qu'une autre. C'était ta vidéo sur la dépression. Est-ce que t'es ok qu'on en parle ou est-ce
ouais,
que
pas de
ok En fait, j'ai vu que cette vidéo, d'ailleurs, tu l'avais donc pour donner un petit peu de contexte, elle s'appelle Comment je suis sorti de la dépression. À un moment, tu l'avais supprimée.
Non.
Non.
Tu veux que j'explique pourquoi?
Ouais, dis-moi, dis-moi.
J'ai juste mis un nom répertorié parce que je rencontrais j'étais célibataire, je rencontrais plein de meufs en soirée. Et quand je leur disais je fais des vidéos YouTube, j'avais pas envie que la première vidéo qu'elles voient moi, c'est la dépression. Tu vois, je voulais donner bonne impression. C'est uniquement pour cette raison. C'est pour
vrai,
les meufs.
C'est
bon. C'est que pour les meufs. Voilà.
Ah, c'est vrai. Ok.
Rien d'autre. Il y a des gens, ils se sont dit, quoi, t'assumes pas ta vidéo? Pas du tout.
C'est vrai que, ok, j'avais pas
c'est
pensé comme ça.
C'est juste pour donner une bonne impression. Mais là, maintenant, voilà, j'ai à l'aise. Maintenant, j'ai sorti d'autres vidéos depuis. C'est
ok,
bon.
Ok. Maintenant les filles elles voient maintenant
c'est
elles voient que tu prends de la LSD, les filles elles
c'est
disent
bon, bonne impression.
C'est bon, bonne impression aussi.
Encore pire mais c'est pas de souci.
Ça marche. OK, je savais pas que c'était pour ça. Donc t'as sorti une vidéo sur la dépression, sur ta dépression. Et moi c'est un sujet qui m'est plus touché qu'un autre parce que j'ai des personnes dans ma famille qui sont en dépression et moi-même ça m'aide à mieux comprendre ce qui se passe dans la tête d'une personne en dépression, tu vois. Et donc cette vidéo, moi, si j'avais été en dépression, j'aurais fait exactement la même vidéo que toi, c'est-à-dire que j'aurais attendu de m'en être sorti pour en parler, parce que je pense que comme toi, j'aurais pas aimé que tout le monde essaie de me donner des conseils, de me dire ça va aller. Non, d'abord je m'en sors et ensuite je vous fais un retour d'expérience. C'est ce que t'as fait dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, t'as dit quelque chose. Déjà, t'en penses quoi de cette vidéo maintenant? Est-ce que ça t'a donné chaud de la faire? Est-ce que t'avais peur qu'on pense que t'es moins solide que ce qu'on pensait, tu vois, c'est des
au
trucs
frère,
non ok
non
dis-moi,
de base
dis-moi
la vérité, le but juste but c'était parce que j'avais des projets qui prenaient trop de temps, fait que je publie une vidéo, donc j'ai fait une vidéo à l'arrache qui prenait 2 secondes, je parlais de ma dépression, je me suis dit ça fait des vues, c'est tout. Mais la vérité, ça va plus loin que ça, parce que j'essaie quand même de transmettre des vraies choses, de partager des vraies expériences. Et non, je voulais montrer que même les mecs que tu suis, on peut dire ouais, c'est une mode de parler de la dépression, de se victimiser. Pas du tout. C'est pas une mode. Il y en a plein qui le vivent. C'est juste que maintenant, on essaie d'en parler. Et je voulais montrer que même le mec que tu kiffes, le mec que tu dis il est fort, non. Et parfois, il est au fond, frère. Et la vérité, ouais, je veux pas forcer là-dessus. Mais il y a des fois, mec, je pensais au suicide. Pas beaucoup, j'avoue, je suis pas allé très loin là-dessus. Mais mec, pour te dire, les mecs que tu kiffes, ils peuvent avoir des idées noires de ouf. Et je me suis dit, c'est important de leur montrer qu'on n'est pas tout seul. Donc, je me suis dit, de toute façon, dans ma vie, faut que je raconte cette histoire. J'ai essayé de faire une fois, voilà, que je suis passé à autre chose et que j'ai trouvé des solutions. Le but, c'est quand même d'apporter des solutions, même si la vérité, c'est que si moi, j'étais en dépression, j'aurais pas envie de regarder une vidéo comme j'ai faite. Mais non, moi, je trouve... De toute façon, les gens, ils ont capté l'idée. Quand ils ont vu ma vidéo, ils m'ont tous dit, mec, t'es chaud, t'es fort d'en parler. T'es courageux de ouf, parce qu'en parler, mec, c'est vraiment que t'es passé à autre chose. Et non, franchement, masterclass. non, franchement, lourde la vidéo philosophique
écoute,
et tout.
Je suis content que tu sois content de cette vidéo. Et en effet, même si tu dis, et je pense que tu as raison, que le gars qui est vraiment en dépression ou la fille qui est vraiment en dépression qui regarde qui passe sur la vidéo, je pense qu'elle va pas la regarder d'un coup. Mais elle va peut-être y revenir un moment. Et c'est sûr que dans la vidéo, il y a au moins 5% des personnes qui étaient vraiment en dépression également, qui ont trouvé des conseils ou qui ont pu au moins s'identifier. Donc
compliqué, mais quand t'es dans une dépression, surtout moi, c'était par rapport à la mort, mec, rien que le mot mort, pour te dire, moi, j'étais dans un mood, quand j'étais en dépression, dire MDR, dans un message MDR, tu pouvais être sûr que pendant 4 heures après, mon mood, il était niqué, j'étais au fond. Juste parce que je voyais MDR écrit. C'est grave quand même. Tu te rends compte à quel point c'est grave. Donc pour te dire que aucune personne en dépression par rapport à la mort pourrait regarder ma vidéo, genre ça va pas du tout aider les personnes. Faut que ça sorte de leur esprit cette.
Faut pas qu'on parle du mot mort.
Bien sûr que non. Donc je t'avoue que ma vidéo je l'ai faite, mais je sais vraiment pas si ça va aider des gens. Mais fallait que je la fasse.
Moi je te dis, je te le dis honnêtement, je pense qu'elle va aider des gens. Et je pense qu'elle a été vue plus d'une centaine de milliers de fois. Il y a forcément des personnes que ça va aider dans le lot, donc écoute,
je pense
que comme je te l'avais dit en commentaire de cette vidéo, je suis content que tu l'aies faite et que t'aies juste pris le temps de faire une vidéo comme ça qui sortait un petit peu de ce que tu faisais d'habitude pour en parler. Et d'ailleurs, tu parles bien du sujet dont je voulais parler et je t'en ai pas encore parlé depuis. Je t'avais dit que je gardais un petit peu les sujets du podcast secret et justement, j'aimerais bien. Ce qui m'a marqué le plus dans cette vidéo, c'est lorsque tu dis que ta dépression était causée en partie par le fait que pour toi la mort elle enlevait un peu tout le sens de ce qu'on pouvait faire au quotidien, dans le sens où puisqu'on va mourir un jour, à quoi bon faire des choses? Est-ce que c'est un petit peu est-ce que tu es d'accord avec c'est un petit peu le message de la vidéo quand tu parlais de la mort?
Ouais, non mais la vérité j'ai pas changé d'état d'esprit, la vérité c'est que la vie ça a pas de sens. Ça a aucun sens, je suis toujours d'accord avec ça, c'est juste que tu peux rien y faire. Donc à partir de là la vie enfin je mets personne dans un mauvais mood. Mais je vais faire court du coup. Mais la vie pour moi ça a aucun sens. Mais t'es là, t'as pas le choix, t'es là, t'es né. Donc s'il y a vraiment un truc que tu dois faire, c'est kiffer et tout donner. Kiffer, c'est ce truc. Ma philosophie c'est être heureux le plus longtemps possible. Mon seul but dans la vie c'est d'être heureux la majorité de ma vie. Donc pour moi c'est tout ce qu'il y a à faire. Après je dis pour moi la vie elle a aucun sens. Mais mon but c'est d'être heureux, c'est tout.
Mais tu sais c'est une vraie vision qui pourrait se rapprocher de certaines philosophies de vie. Hein. T'as ceux qui pensent qu'ils sont là sur Terre pour une raison, ils sont là à cette époque pour faire quelque chose, ils ont été envoyés par quelqu'un sur Terre pour faire quelque chose, tu vois. Je saurais pas définir cette philosophie de vie, mais il y en a qui pensent comme ça. Moi, je pourrais m'y rapprocher dans le sens où je pense qu'on a tous été envoyés pour faire quelque chose, on a tous un rôle à jouer, tu vois. Mais c'est une vraie philosophie de vie celle que t'as où en fait la vie elle a aucun sens, ça n'a aucun sens. On est en ce moment en train de parler, tu vois, il est minuit passé, on parle.
Non, ça a aucun sens la vie. On fait que improviser.
On parle dans
on
un.
On improvise
micro,
de ouf.
On frère. Parle dans un micro.
Totalement.
On est sur un globe qui tourne dans un univers qui s'étend de jour en jour sur une planète qui tourne sur elle-même, tu vois. C'est vrai que ça n'a aucun sens. Et je te jure que je comprends ta vision et
chacun sa philosophie après. Ouais, chacun
même,
croit ce qu'il veut de toute façon.
Même moi qui suis un peu.
Tout le monde.
Oui. C'est beau. Mais même moi qui suis dans une approche, en effet, que j'essaie de trouver le maximum de sens dans ma vie, je suis forcé de constater que quand j'ai vu ta vidéo, j'ai fait, il a raison. Tu vois, c'est vrai que à quoi ça sert de construire même une famille si tous les membres de la famille vont mourir un jour?
C'est très dark tout ça.
Non, je pense même pas, tu vois. Je pense juste, c'est une question. À quoi ça sert, c'est une vraie question. À quoi ça sert d'élever un animal si à la fin si dans quelques années il va décéder? À quoi ça sert de prendre soin d'essayer de construire une maison si dans quelques années on va mourir, on pourra plus habiter dans cette maison? Je saurais pas définir. Est-ce que c'est, non, c'est pas le nihilisme. C'est une autre philosophie de vie, mais c'est une vraie philosophie de vie et je t'assure que c'est peut-être même une philosophie fataliste, tu vois. C'est moi, c'est la philosophie que j'ai dans l'avion, par exemple. Les gens qui ont peur de l'avion et qui ont peur lorsqu'il y a je sais plus comment ça s'appelle dans l'avion, lorsque l'avion il passe par une phase où
turbulence.
Turbulence, exactement. Moi, je suis très fataliste dans l'avion lorsqu'il y a des turbulences. Je me dis, bah si ça meurt, si l'avion tombe, je meurs, mais j'aurai pas de douleur, tu vois. C'est très fataliste. C'est bah s'il faut mourir, il faut mourir. Et toi, c'était une vision un petit peu comme ça, où tu disais, bon, bah, si, en effet, la vie, elle a pas de sens, parce qu'on va tous mourir un moment. Et c'est une vraie philosophie de vie. Donc, je voulais te dire que t'es pas juste je pense pas que tu sois du tout le seul à penser comme ça. Et même moi, après avoir vu ta vidéo, je me suis dit, en effet, bah, il a un peu raison sur certains points, tu vois. C'est sûr que, à quoi bon? Et je suis surpris de voir que t'as...
Ceux qui ont pas fait de dépression, vous rendez même pas compte. Je pense, tu sais, c'est triste, hein, de dire ça comme ça. Mais pour moi, quand t'es en dépression, tu te rends compte des vraies choses. Pour moi, j'ai jamais été aussi, on va dire...
lucide.
Ouais, lucide que quand je suis en dépression. Pour moi, là, pour moi, tous ceux qui vivent normalement, ils se voilent la face sur ce que c'est vraiment la vie. Après, j'ai pas envie de mettre dans un mauvais mood. Mais la vérité, tous ceux qui vivent heureux, ils se voilent la face parce que la vie, c'est horrible. Le fait qu'on meure un jour, c'est tellement horrible que c'est horrible au point qu'on l'a effacé de notre conscience et qu'on vit comme si ça n'existait pas. Mais c'est tellement horrible que ouais c'est, enfin, genre quand t'es en dépression, tu te rends compte de ça et c'est horrible. Bref.
Et dans ce cas-là,
c'est pour ça que je souhaite ça à personne d'être en dépression. C'est, on peut pas comprendre quand on l'a jamais vécu, mais c'est chaud.
Bah c'est pour ça que je te pose des questions sur le sujet, parce que comme je t'ai dit, c'est un sujet qui me concerne aussi, même dans mon entourage proche. Et qu'est-ce qui justifie le fait, tu vois, que tu sois par rapport à cette vidéo que t'as sortie il y a quelques mois, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont rendu plus heureux depuis cette vidéo, par exemple? Qu'est-ce qui te rend heureux au quotidien? Tu disais que ta philosophie, c'était d'être heureux le plus longtemps possible. Dans quelle phase est-ce que tu te sens vraiment heureux?
Mec, je sais pas. Je te dis, j'improvise constamment. Non, mais mec, moi, frère, YouTube. Okay. Je suis amoureux de YouTube, mec.
La créativité.
Ah, frère, YouTube, tu m'enlèves YouTube, moi, je suis mort, frère. J'ai rien à faire de ma vie. Mec, non.
Le sport?
Répète ta question.
C'est quoi qui te rend heureux? Qu'est-ce qui t'a, entre le moment où t'as tourné la vidéo et ce moment, c'est les moments où tu t'es senti heureux ces derniers mois, c'était lorsque tu faisais quoi? Qu'est-ce qui te rend heureux?
Bah, moi, mec, tout ce qui fait que, ouais, tout ce qui fait en sorte que je sois heureux, je t'ai dit, la majorité de ma vie, ça me rend heureux. Par exemple, quand je vais à la muscu, je sais que je vais être bien dans mon corps, je suis heureux. Donc, trouver la personne avec qui je veux faire ma vie, ça me rend heureux. Donc, ouais, tout ce que fait n'importe quelle personne normale, travailler, faire un taf que t'aimes, c'est, ouais.
Ok.
Tu vis.
Et ça, malgré le fait, tu sais que ça va se finir un jour, ça te rend heureux, en tout cas aujourd'hui.
Je t'ai dit, ça se finit un jour, mais franchement, ouais, j'ai des nouvelles philosophies. Déjà, je me dis que non, en fait, ça va pas se finir un jour parce que ça n'existe pas. Quand une fois que c'est terminé, c'est pas un truc que tu vas vivre. Et ce truc qui existe, c'est les trucs que tu vis. Donc non, la mort en vrai, de vrai, ça n'existe pas pour toi. Pour les autres gens, ta mort, elle existe. Mais pour toi-même, ça n'existe pas. Donc, en vrai, tu t'inquiètes pour un truc que tu vas même pas... À aucun moment, tu vas dire « Ok, je suis mort. » Enfin, t'as capté. Sauf... Bref. Et je me suis perdu dans mon...
Non, non, c'est exactement ce que je disais avec...
Il y a une autre philosophie. Donc, t'as la philosophie que tu vis pas les choses. Et l'autre philosophie, c'est... Vas-y, enchaîne, j'ai oublié.
Tu voulais pas dire qu'on vivait éternellement et que c'était simplement le corps qui décédait?
C'est ce que j'ai dit, ouais, au final, tu le vis pas, la mort. Toi, tu vis une éternité, parce que c'est la chose que tu vis.
Mais il y a aussi des philosophies qui te montrent que tu vas revivre, en fait, ton âme, elle meurt jamais, que tu vas revivre avec une autre existence, mais qui sera plus celle dans le corps que t'as vécu. T'as jamais entendu parler de ça?
Si, bien sûr.
Tu vois?
J'y crois.
T'y crois pas?
Pas du tout, mais.
Okay. Après, j'avoue qu'en effet, si
on
c'est...
respecte si tu crois ça.
Non, bien sûr, mais il y a le bouddhisme, par exemple. Après, je t'avoue qu'en effet, si je me réincarne en asticot, tu vois, c'est clair que je me dis peut-être autant
autant ne pas se réincarner du tout, vraiment. Là, on n'est pas obligé. Pardon,
si je suis un lion, c'est stylé, tu vois. Mais voilà, c'est un peu la loterie. Mais non, mais il y a d'autres philosophies, et j'étais tombé sur une ouais, sur une philosophie de vie qui pensait, qui montre un petit peu ça, que en fait tu, ton âme existera à jamais. Et je t'avoue que j'ai même pas encore compris exactement ce que voulait
dire cette philosophie. Toi, t'as déjà fait une
dépression? Ben, je pense pas, mec. Je pense pas.
Putain, mec, c'est franchement.
Je sais que il y a même.
Si t'en as fait une, ah ouais, tu m'appelles et je t'aide, mec, parce que.
Oui, c'est ça. Mais je le saurais.
Je reste pas seul.
Je le saurais, tu vois.
Ouais.
Je pense. Après, je comme je l'expliquais sur YouTube, pour moi, une dépression, c'est une déprime qui s'étale dans le temps. Et parce que c'est selon moi vraiment la différence entre la. Je me suis renseigné sur la déprime et la dépression. Et ce que j'ai compris, c'est que la différence, c'est la durée, tu vois. La déprime, ça peut te toucher quelques jours. La dépression, ça dure quelques semaines, quelques mois, quelques années. Et moi, j'ai connu des phases de déprime où je trouvais plus trop de sens dans ce que je faisais au quotidien. Et ça, pour moi, c'est une déprime. J'en ai parlé sur YouTube parce que quelques jours, en effet, je me demandais à quoi bon, tu vois, faire ce que je fais aujourd'hui. Mais ça dure quelques jours ou quelques heures. Alors que selon moi, une dépression, c'est ça, mais de manière plus longue. Donc non, j'ai pas fait de dépression. Mais c'est pour ça que j'essaie de comprendre ce qui se passe dans la tête d'une personne dépressive. Mais comme tu l'as dit, c'est très difficile d'imaginer lorsqu'on l'a pas été.
Franchement, c'est pas possible. Je te dis, ouais. C'est pas possible. Tu te prends même pas compte à quel point. Moi, j'en parle. Et pour te dire à quel point c'est hardcore. Je me souviens même plus de ma dépression au point. En fait, quand tu vis des moments tellement durs, après voilà, il y a pire qu'une dépression. J'ai pas vécu des trucs de ouf non plus. Je suis pas allé en Afghanistan quoi. Mais quand tu vis des trucs tellement durs, ton cerveau il est supprime de ton esprit. Puis c'est trop. Tu peux plus y penser. Et mec, au point que je m'en souviens plus trop de ma dépression. Mais franchement, mec, je te dis, tu te rends même pas. Bon,
bref. Mais je sous-estime pas. Hein. Tu vois, tu parlais de l'Afghanistan parce que c'est plutôt une violence physique. C'est plutôt la guerre. C'est plutôt des conflits armés. Mais je sous-estime pas du tout la violence.
Ouais, pour moi, ça peut être encore
la violence
pire,
mentale. La violence mentale, tu vois.
Ouais, non, c'est.
Non, je sous-estime pas du tout.
Non, je dis pas que tu sous-estimes.
Non.
Mais tu vas pas s'embrouiller, non, mec.
Tu disais l'Afghanistan. Je pense vraiment que pour moi, les plus grandes douleurs, c'est les douleurs mentales. C'est même pas des douleurs physiques.
C'est des meufs, les plus grandes douleurs. C'est les problèmes de couple, c'est le pire. Vraiment.
C'est un autre sujet, mais c'est vrai que souvent.
C'est un autre sujet, on n'est pas obligé d'en parler ici.
Non. Mais c'est vrai que ce sont des douleurs mentales. Bah, tu parlais des relations, c'est des douleurs mentales la plupart du temps. La dépression, le sens, c'est des douleurs mentales. Mais c'est tellement un sujet qui, et je savais que j'allais en parler avec toi parce que ouais, c'est vraiment un sujet où, bah, il faut des personnes qui en parlent et, tu vois, justement, comme moi, j'en ai pas vécu, je sais pas vraiment quoi proposer aux personnes qui pourraient être, j'ai des personnes dépressives dans ma famille et je sais pas quoi faire, tu vois. Et je me sens pas légitime parce que ce sont des personnes qui ne sont pas parce que je ne suis pas dépressif moi-même, tu vois. Et moi, ça paraît basique mes solutions, mais c'est souvent le sport, l'hygiène de vie, retrouver une vision optimiste. Mais ça paraît simple, comme ça je suis d'accord. Mais je sais pas quoi dire d'autre à part ça, tu vois. Donc c'est pour ça que je demande aussi à des personnes qui ont
connu
une dépression.
Ça dépend de la dépression, t'as plein de raisons.
Faut mais savoir c'est ça, la aussi, raison c'est ça aussi avec la santé mentale, c'est qu'il y a tellement de formes différentes que.
Il n'y a pas une solution pour tout le monde.
Ouais. Donc c'est pour ça que je suis un peu pris dépourvu à chaque fois.
Ouais, compliqué.
Donc c'est pour ça que je te demandais, toi, qu'est-ce qui t'a rendu heureux depuis? Donc tu me parlais de YouTube, la créativité.
Ouais, bah je t'ai dit, ça dépend de ta dépression. Moi, ma dépression à moi, donc déjà c'était par rapport au fait que j'avais un environnement claqué au sol, il y avait rien qui allait. J'habitais, comme j'ai dit, si vous regardez la vidéo, dans un 18 mètres carrés depuis des années. Je me sentais trop mal, j'avais zéro pote, je sortais jamais. L'environnement était nul. J'ai changé tout mon environnement, c'était déjà beaucoup mieux. Ensuite, faire régler le problème de la mort. Donc, ouais, j'ai développé des philosophies qui me faisaient voir les choses autrement. J'ai fait de je sais pas comment on dit, mais de l'auto-persuasion. En gros, je me forçais à pas y penser. Ou alors, franchement, ça marche. Après, ouais, ça dépend des dépressions. Et, franchement, regardez ma vidéo si c'est des dépressions par rapport à la mort. Si c'est des dépressions par rapport aux meufs. Franchement, je pense que c'est moins pire parce que la vérité, en fait, quand tu sors d'une dépression par rapport à la mort, tu te dis, ça pourra toujours revenir un jour parce que.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs.
Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Le problème, il n'est pas réglé, c'est juste ma vision de la chose qui a changé. Alors qu'une meuf, tu te rends compte qu'en vrai, il y en a 3000. Voilà, ça dépend des dépressions.
Bah, je ne connaissais pas la dépression par rapport aux meufs. Donc,
C'est franchement, t'as la dépression par rapport à la mort, aux meufs. Je vois pas quel autre type de dépression tu peux avoir. En fait, la dépression, c'est quand tu trouves plus de sens à ta vie, je pense. C'est ça.
Bah, je dirais qu'il y a la dépression par rapport au travail, le fait de faire un travail qui... C'est une réalité pour beaucoup de personnes. De se lever pour faire un travail qu'elle n'aime pas, mais en effet voilà, comme encore une fois je suis pas légitime pour parler de ça, donc j'avais sous-estimé je pense l'influence de la vision de la mort, à quel point ça pouvait impacter une personne. Et j'en avais parlé avec Paolo dans mon dernier podcast, qui lui m'avait dit que le livre qui l'avait aidé à changer sa vision de la mort, c'était Penser pour moi-même de Marc Aurèle, où il comprenait qu'en fait la mort n'était pas son problème à lui, comme tu le disais, parce qu'une fois qu'il serait mort, il ne serait pas là pour la vivre. Et à moins qu'il ait une mort lente et douloureuse, ce qui fait peur.
Voilà, maladie, c'est ça,
oui,
le truc.
Ce qui fait peur à tout le monde.
Pour moi, la maladie, c'est vivre la mort.
Ce qui fait peur à tout le monde, tu vois. La mort lente et douloureuse. S'il n'avait pas ça, s'il avait une mort dans son sommeil, par exemple, c'était pas du tout une mort qui devrait lui faire peur.
Ouais.
Et je partageais son avis et... Mais peut-être que je fais partie des personnes comme toi qui se voilent la face, ou j'essaie de pas y penser.
On se voit tous sa face, tous. Okay. Tous ceux qui sont pas en dépression, ils se voient la face pour moi.
Okay,
là, je me vois la face.
Et est-ce que c'est un autre sujet, mais est-ce que quand t'es en dépression et que t'as cette, c'est pas de la haine, j'imagine, mais c'est un mélange d'émotions que tu ressens. Est-ce que t'as de la haine, tu ressens de la haine contre les personnes qui sont pas dépressives? Non. Est-ce que tu commences à distinguer les personnes qui ont fait une dépression et les personnes qui n'ont pas fait de dépression?
Non.
Non. Ok. Non. C'est une question que je me pose, tu vois, parce que parfois quand tu te sens, quand t'as des difficultés, tu as de tendance à peut-être avoir la haine contre les personnes qui n'ont pas eu ces mêmes difficultés, tu vois. Ok.
Non, pas
non.
du tout.
Ok. C'était ton problème. Tu disais que c'était ton problème à toi à résoudre, et puis c'est pas le problème des autres.
Ouais, bah mec, je sais que de toute façon quand t'es en dépression, tu sais que tu l'as pas été toute ta vie, donc tu sais que. Tu vas pas être en haine envers toi-même quand tu t'y pensais pas.
Ok.
C'est juste que, voilà, on va pas revenir sur les choses, je vais pas me répéter. Okay. Non, t'es pas en haine.
Ok, non, mais t'en as bien parlé de toute façon de la dépression. Merci d'en avoir parlé.
Pas de souci, mec. Je t'en prie.
Et il y avait un autre sujet un petit peu plus joyeux dont je voulais parler avec toi. C'était.
Ça serait bien quand même, ouais, parce que là on a mis tout le monde dans un très mauvais mood.
Non. Je suis sûr que c'est important ce qu'on dit, tu vois.
Ouais, ça va, je pense.
Et le fait de montrer l'exemple aussi, de montrer que depuis cette vidéo, t'as continué le sport, t'as continué ta passion, et ça te donne du sens au quotidien. Et c'est très bien, mais c'est vraiment ce que je voulais vraiment de ce podcast, et je suis sûr que ça va aider beaucoup de personnes. Maintenant, pour parler des sujets plus joyeux, on a une passion en commun qui est YouTube. Qu'est-ce que tu penses d'abord de la vision? C'est quoi ta vision de la plateforme YouTube actuellement en 2022 par rapport à toi? Tu as connu YouTube en 2015, 2016. Les années précédentes, c'est quoi ta vision de YouTube actuellement, et c'est quoi tes ambitions aussi pour YouTube les prochaines années maintenant que tu as plein temps dessus?
Pour moi, YouTube, c'est une plateforme irremplaçable dans le sens où c'est un format qui peut pas être remplacé par TikTok. On peut dire ouais, TikTok, ça peut prendre le temps des utilisateurs, qui fait que ils vont passer moins de temps sur YouTube, mais ça va jamais le remplacer parce que c'est pas les mêmes formats. Comme le cinéma, tu peux pas dire maintenant qu'il y a TikTok, plus personne va voir de films. Donc ça aura toujours sa place.
Après, il y a des gens qui regardent des films sur TikTok. Hein. Ça, c'est un problème.
Ouais, bon, après, t'as des psychopathes partout.
Tu l'as vu, ça?
Ouais, j'ai entendu parler partie 43 du film.
Exactement, exactement. J'ai jamais vu ça, mec. Non, t'as des gens qui regardent des films entiers sur TikTok.
Ouais, non, mais frère, c'est...
Non, c'est pour l'exemple.
1%, 1%.
C'est pour l'exemple.
Et donc déjà, ouais, c'est irremplaçable. Peut-être ça s'appellera plus TikTok, plus YouTube. Peut-être on sera plus des YouTubers, on sera une autre plateforme. Je pense pas, parce que voilà, bref, ça aura toujours sa place. C'était quoi la deuxième partie de ta question?
C'est quoi ta vie? C'est quoi ton...
Mes ambitions?
Tes objectifs maintenant que tu...
Mec, on a... Ouais, j'ai dit ça. Il y a plein de YouTubers qui ont des objectifs après YouTube. Avner, c'est le cinéma. Nassim Saïdi, j'ai vu récemment, il avait dit, lui aussi, la suite, c'est le cinéma. Moi, c'est YouTube. YouTube, c'est la finalité. On me dit, tu veux faire quoi? Ah ouais, j'ai vu une interview. C'est Squeezie qui est passé dans une chaîne Click. Télé. Non, pas dans Click.
Canal Plus?
Non, il est passé dans un truc où.
Ah, récemment, là?
Ouais, où c'est il mangeait une, je sais plus, mais en tout cas, il mangeait tout, tu sais, c'est.
Ouais, c'est ça, c'est
à vous.
Ouais.
Ouais, et il lui demandait, c'est quoi la suite de YouTube, la finalité? Et Squeezie disait, ouais, bon, ok, peut-être c'est le cinéma, on verra. Frère, assume! YouTube, c'est déjà la finalité, mec, t'as tout niqué. Mec, YouTube, c'est incroyable, y a pas besoin d'aller plus loin si tu kiffes YouTube. Moi, c'est ça, mec, YouTube, je kiffe trop. Après, tu changes de goût, s'il faut, je voudrais. J'ai eu des opportunités dans le cinéma, j'ai pas saisi parce que c'est pas mon délire du tout. Donc pour moi, y a YouTube, je tout niquais, frère. Déjà, essayer d'être un gros de YouTube, c'est déjà une ambition de ouf. Y a pas besoin de vouloir aller à Hollywood et tout, genre, c'est bon.
Mais d'ailleurs, t'avais tourné un épisode où tu étais figurant d'un combattant, t'étais figurant d'un combattant de boxe. Et t'as tourné, mec, une vidéo avec l'acteur de La Casa de Papel, qui
était
Helsinki. J'ai
tourné avec Helsinki de La Casa de Papel.
Est-ce que
ça va?
Est-ce que
c'est bon pour vous ou pas? Dites-moi. Sinon,
raconte un peu parce que redonne un peu de contexte à cette anecdote.
La Casa de Papel, bah, je suis dedans, frère. Non. Bah, en gros, si tu veux, mec, y a un abonné. C'est ça qui est incroyable quand tu fais des vidéos YouTube. T'as des abonnés, frère. Y a un abonné, il veut lancer une série. Et quand tu veux lancer une série, tu dois faire un teaser pour les productions genre Netflix, Disney+. Il faut leur montrer un teaser pour qu'ils se disent « Ok, on va produire sa série, on va lui donner du budget. » Donc quand tu tournes la bande-annonce qui sera publiée nulle part au final, tu recrutes, bah tu la tournes, tu vois. Donc ils ont appelé le mec de La Casa de Papel, donc Helsinki, le mec qui est chauve, gros. Il est incroyable dans la série, on le kiffe.
Les gens le connaissent, je pense.
Ouais, vous voyez qui c'est. Et ouais, voilà, j'ai tourné avec lui parce qu'il m'a appelé, parce que c'est un abonné au final. Il m'a dit, mec, tu corresponds trop pour le rôle de un tel. Et ouais, j'ai joué un boxeur vu que je faisais de la boxe à ce moment-là. Et j'ai tourné avec un acteur international. Et
mais oui, c'est ouf.
C'est lourd de ouf.
C'est ouf. Mais moi, j'ai vu ça, j'ai fait, mais attends, mais... tu sais, c'est cette situation où tu suis deux personnes, tu connais deux personnes et tu les vois dans un même endroit.
Moi, je regardais La Casa de Papel, jamais je me serais dit, ok, je vais tourner avec lui dans un an, frère.
Ouais,
je suis pas acteur du tout, genre.
Oui.
Est-ce que là, j'ai l'air de bien jouer? Non.
Ça m'avait fait beaucoup rire quand j'ai vu ça. Et ouais, c'est beau, ça, tu vois. Et ça, c'est le genre de choses que tu peux pas imaginer. Et
moi, je suis sûr, j'irai. Là, je suis en train de regarder des trucs Netflix. Les gens, ils vont dans l'espace. Tu sais, c'est des civils qui vont dans l'espace. Ils étaient même pas au courant il y a un an qu'ils allaient dans l'espace. C'est le mec, il est livreur Uber Eats, tu vois. Je sais pas si t'as vu cette série.
Non,
bah, là, pour moi, c'est pareil. Je fais des expériences. Mec, dans 20 ans, s'il faut, j'irai dans l'espace, frère. tu sais pas, mec, tu sais pas ce qui peut t'arriver, gros.
C'est
la
vrai.
Vérité.
Donc, ça, c'est une raison de vivre plus longtemps. On sait pas ce qui peut se passer dans le futur.
Profite, mec, faut vivre plus longtemps. Profite de la chance que t'as.
Ok.
T'aurais pu ne pas vivre du tout. Profite.
Ouais. Je connais plus les statistiques, mais je crois que c'est une chance sur quelques trillions d'être en vie. Genre, on a été les spermatozoïdes les plus rapides, tu vois,
ouais.
Dans la course des spermatozoïdes.
Après, frère, qui se lançait, t'aurais été la conscience de n'importe quel spermatozoïde qui aurait pu.
Oui, mais j'aime me dire que j'ai commencé ma vie en gagnant la course des spermatozoïdes, tu vois, que je les ai tous fumés les autres. Tu vois, j'étais le chosen one, tu vois. L'élu.
Ouais.
Je trouve ça beau, tu vois.
Il était autant l'ovule que spermatozoïde au final.
mais tu vois, je te jure, c'est vraiment une question de perspective, je pense. Et moi, dans ma perspective, j'ai commencé ma vie en gagnant une course, tu vois.
Ah ouais.
La course des spermatozoïdes. Et je suis arrivé le premier, tu vois.
Ah, t'es chaud, mec, franchement.
Mais toi aussi, si t'es là aujourd'hui.
Merci,
tu vois.
Mec.
Je te jure, c'est vraiment comme ça que je le vois. Et ok, donc ça, c'était. Donc ta perspective, c'est de rester sur YouTube, de continuer à grandir sur cette plateforme qui est.
On fait le million et après on verra.
Ok.
Déjà on fait le million.
Intéressant.
C'est déjà bien, frère.
Intéressant. J'aime bien demander aussi, c'est quoi des petites exclus sur les prochaines vidéos. Est-ce que t'as une idée de ta prochaine vidéo?
Ah mec.
Tu viens de sortir la dernière aussi, donc on précise. C'est très frais.
Ouais, c'est très frais. Surtout, je mets beaucoup de temps à sortir la vidéo. Non, j'ai plein d'idées, mec. J'ai une quarantaine d'idées.
Ok.
Mais moi, je choisis celle que j'ai le plus envie de faire, avec laquelle j'aurai le plus d'énergie, celle qui correspond le mieux à la tendance, celle qui correspond le mieux selon les vues que j'ai fait pour équilibrer entre prise de risque et valeur sûre. Ça dépend de trop de trucs. Là, je t'ai dit, je vais me casser quelques jours dans un autre pays.
Tu dis là? Tu dis?
Ouais. Pas de souci. C'est pas personnel, ça. Je vais me casser dans un autre pays.
Pour l'inspiration, tu m'as dit.
Pour l'inspiration, kiffer un peu et trouver la prochaine vidéo. Préparer la pré-production. La pré-production, t'as juste besoin de ton ordi pour écrire. Après, ça dépend des youtubeurs. Moi, j'ai juste besoin de mon ordi et je vais trouver, c'est mon taf actuel de trouver l'idée de la prochaine vidéo. J'ai time.
Ok. C'est quoi d'ailleurs ton processus créatif? Tu parlais de la pré-production. C'est ça? C'est l'écriture de la vidéo. C'est quoi un peu ton processus rapidement entre le moment où t'as l'idée et le moment où tu publies la vidéo?
Ouais, il y a des trucs.
c'est quoi ton processus?
Bah, je t'ai dit, ça dépend des vidéos, mais en général, c'est une semaine pour trouver l'idée, pour organiser, parce que parfois, faut acheter du matériel, parfois, faut prendre des rendez-vous avec un mec, des contacts.
Acheter une tenue de Breaking Bad.
Voilà, juste là, je pense qu'il est dans le plan. Non,
c'est Breaking Bad, ça?
Ouais, le masque. C'est prêt, Breaking Bad, c'est Walter.
Ah, c'est le
White.
Gars, c'est Walter.
Ouais.
Ok, mais t'avais la tenue jaune aussi dans la vidéo.
Ah ouais.
Bon, je mettrai une image pour faire la vidéo pour le contexte.
Non, t'embêtes pas trop sur le montage, tu vas galérer. ouais. Non, il y a d'après production, ça dépend des concepts, mais moi, je mets beaucoup de temps. Donc, une à deux semaines de pré-production. Le tournage, ça dépend des concepts. Mais ouais, une semaine. Et les montages, ils prennent beaucoup de temps, deux semaines. Donc, ouais, au final, un mois pour chaque vidéo.
Ok. T'es très perfectionniste, en effet, tu m'en as parlé, impossible.
Gros manque de confiance en moi que je compense avec un montage de bâtard. C'est exactement ça, ma vie. Et il n'y a pas de blague, frère, c'est réellement ça.
Parce qu'on en parlait, mais d'ailleurs, c'est une discussion que j'avais eue un peu avec Eric, mais je crois qu'elle était en off, elle n'était pas dans le podcast. Mais toi et moi, on était des mecs normaux, moyens, moins du lycée. On n'était pas les gens populaires du lycée.
Ça dépend. Moi, au début, j'étais le mec, toutes les meufs, elles m'aimaient pas. Genre vraiment, au collège, les meufs, elles m'aimaient pas, frère. Surtout en troisième et tout.
Après, comme t'as lancé ta
chaîne
YouTube.
Il y avait eu un sondage, ils avaient fait un classement des mecs qui préféraient. J'étais tout dernier. Elles m'aimaient pas. Je me suis dit, faut remonter dans la liste, tu vois.
C'est horrible, ça.
Oh, c'est horrible, bien sûr.
C'est horrible, mec.
En vrai, ça, j'ai pas trop mal pris. Mais j'étais moche, sa mère, à l'époque, frère. J'ai pas beaucoup changé, mais j'étais pas
ouf.
Frère, après, je me suis dit, faut changer ça. Ça m'a donné la rage, franchement, je vous remercie. Parce que franchement, la vérité, que si j'étais pas aussi claqué au sol au lycée, au collège, j'aurais pas eu la même rage maintenant.
Mais c'est exactement ce que je voulais dire, mec. Le fait d'être un mec normal, moyen, moins, le mec invisible, ou le mec horrible, ce truc de classement, là, bref. Ça donne envie, ensuite, lorsqu'on sort du lycée, ou même toi, à la fin du lycée, tu disais que t'étais plus populaire. Avec comme
ouais,
si
bah, j'avais commencé les vidéos en seconde première et moi ouais, déjà les gens ils commençaient à s'intéresser un peu.
Mais je te jure mec que ça pas mal. Ça s'appelle La Revanche des mecs normaux, je pense. Je te jure que si je devais écrire un livre, ça s'appellerait La Revanche des mecs normaux. Je te jure que
mec, il y a des gens populaires du lycée. C'est ce que je disais à moi, j'aime pas là, ça fait mec à grosse tête et tout.
Non, dis-le.
Mais quand t'es populaire au lycée, tu dis bonjour un peu à tout le monde. Mais t'es au lycée, tu vois, normal que tu connais les gens, ils sont dans ta ville. Mais une fois que t'es youtubeur, n'importe où, dans n'importe quelle ville, les gens ils viennent te dire bonjour. Et c'est incroyable d'être populaire dans la vie de tous les jours. Donc ouais, tu peux appeler ça une revanche.
Mais c'est une vraie, je te jure que c'est une vraie, un vrai constat que je me suis fait. Les gars les plus populaires de mon lycée, maintenant, sont...
C'est qu'au lycée, frère, une fois que... T'es plus au lycée, en fait, ça ne veut plus rien dire.
Je pense surtout que ça t'enlève la fin, tu vois. Quand au lycée, t'as eu tout ce que tu voulais. T'étais le mec populaire. T'avais tout. Et t'avais l'attention de tout le monde. Je pense forcément que t'as moins faim après.
Je pense que c'est beaucoup plus rare, les mecs qui avaient tout, qui avaient toutes les meufs, qui avaient la popularité. Je pense que c'est plus rare qu'après, ils aient cette rage de tout donner. Il y en a, qu'il y en a, mais c'est plus rare, à mon avis. J'avais vu un podcast, je sais plus où j'ai entendu. Mais tous les mecs qui niquent tout dans leur vie pro, ils ont eu un traumatisme un jour ou un autre. C'est obligé. Il y en a peu qui ont rien eu toute leur vie tranquille et t'as besoin d'un moteur.
Il y a toujours un truc. Ça, c'est, je suis d'accord. Il y a la classique rupture amoureuse. Il y a souvent le harcèlement. Bah, d'ailleurs, on est tous deux fans de MMA. Mec, le nombre d'athlètes de MMA qui ont connu du harcèlement petit.
C'est vrai.
C'est incroyable. Bah, tu connais Georges St-Pierre.
Ouais.
Un des, considéré comme un des goats du MMA. Il s'est fait harceler tout le temps. Lorsqu'il était dans le bus, il racontait ses anecdotes. Il était dans le bus pour aller au lycée ou au collège. Il se faisait harceler. Il y avait un gars qui l'avait, je crois, tu sais, l'humiliation ultime, qui lui avait baissé son pantalon dans le bus, tu vois. Genre ouais. Vraiment, et chaque fois, il lui faisait ça tout le temps. À chaque fois qu'il le voyait dans le bus, il faisait ça. Il avait raconté cette anecdote incroyable où, quelques années plus tard, de nombreuses années plus tard, lorsqu'il était champion de l'UFC, donc un des plus grands combattants du monde, il avait recroisé ce gars dans la rue qui était SDF, je crois. Donc vraiment, ça ressemblerait à un truc de film, tu vois, cette anecdote. Ouais. Et il lui demandait de l'argent.
C'est vrai?
Oui. Il toquait à la porte des voitures pour lui demander de l'argent. Georges St-Pierre a baissé la vitre et il s'est rendu compte que c'était lui. Et il est parti en courant, le gars, parce qu'il il savait que c'était devenu un combattant de MMA maintenant.
Ah ouais.
Et il s'est dit, s'il a l'esprit un peu revanchard, il va me défoncer, tu vois, parce que par rapport au mal que je lui ai fait quand il était petit.
Ah ouais.
Et Georges St-Pierre, meilleure action possible, il lui a donné de l'argent.
Putain.
Qu'il avait gagné grâce à ses combats, animé par la haine qu'il avait.
Quel beau gosse, mec, on t'aime, Georges St-Pierre.
C'est incroyable cette anecdote, je trouve.
J'ai vu, au musée Grévin, j'ai pris une photo avec lui, forcément.
T'as vu la statue
quel de... Quel goat.
Enfin bref, c'est une anecdote purement de MMA qui plaira aux puristes, mais qui, je trouve, représente beaucoup d'autres choses. Et en effet, comme tu le disais, je trouve que toutes les personnes qui, de 20 à 30 ans, ont eu des parcours assez extraordinaires, toutes ces personnes ont connu quelque chose de 8 à 20 ans ou de 4 à 20 ans qui leur a donné un peu la haine ou la rage.
Ouais. T'en as eu, toi, de traumatisme un peu comme ça?
Bah, j'en ai parlé souvent de ma rupture, tu vois. Ça peut sembler par exemple, par rapport à la dépression dont tu parlais, en effet ça peut sembler léger, mais en effet cette rupture, elle m'a défoncé vraiment. Ah ouais. Je l'aimais, cette fille, et on en a parlé un petit peu d'ailleurs. Je t'ai dit toutes les choses qu'elle avait pu faire dans cette période de rupture, qui en fait c'est l'imagination qui m'avait détruite. C'est qui m'avait détruit. Ouais. C'est toutes les choses que j'avais imaginées par rapport au contexte dans lequel j'étais à ce moment-là. Donc ouais, je dirais. C'est pour ça que je te dis que les douleurs mentales, mec, elles font beaucoup plus peur que les douleurs physiques. C'était purement de l'imagination qui me détruisait à ce moment-là. Enfin bref, cette rupture, ouais. Et quand j'y repense, je pense pas avoir d'autres okay. choses qui m'ont. J'ai eu quelques. Comme j'étais quelqu'un d'assez. J'étais le plus petit de ma classe tout le temps, de la sixième à la troisième. Parce que j'ai eu un retard de croissance, j'ai pas vécu de harcèlement, mais j'étais toujours le petit, tu vois, dans la classe, et c'était un peu chiant. Et je pense que ça a joué aussi, le fait de me dire j'étais le petit tout le temps. Ben, vous allez voir, dans quelques années j'aurai de l'avance sur tout le monde, tu vois. Et j'ai toujours été le mec qui était le moins développé physiquement. Genre, ma poussée de croissance, ça s'est passé genre des années avant tout le monde, après tout le monde. Le fait que je sois musclé, ça s'est passé des années après tout le monde, mais je me suis toujours dit que j'allais me venger sur l'intellectuel, où j'allais être des années en avance par rapport à tout le monde, tu vois. Je me suis dit, quitte à physiquement que je sois pas au même niveau que vous, genre quand ça se voit encore, tu vois, mec, j'ai 23 ans, je pourrais très bien passer pour un mec de 19 ans, tu vois. Genre, ça se voit, je fais plus jeune que mon âge, mais je me suis toujours dit, je vais compenser ça avec l'intellectuel, et je vais apprendre plus vite que vous, je vais jouer avec mes avantages, tu vois. Donc ouais, je dirais que c'est ça. La taille est... Là, aujourd'hui, je suis 1m76, ça va. Mais c'est vrai que petit, ça m'avait beaucoup complexé, tu vois. Et la rupture, un peu plus classique, mais je pense qu'il en faut pas plus forcément pour déclencher la haine de quelqu'un et de lui donner envie de tout casser dans sa vie, tu vois.
Ouais, mais je me dis, peut-être que les gens qui ont pas la rage, ils ont aussi vécu des trucs comme ça, mec. Hein. J'en sais rien, parce que tous les mecs qui percent, ils racontent leur traumatisme. Mais les mecs qui percent pas... Peut-être ils en ont, et je les ai jamais entendus. Il y en a plein, tu vois.
C'est une question aussi de. Tu penses qu'ils l'ont un peu accepté sans en tirer quelque chose?
Ouais, peut-être que tout le monde vit, et ceux qui arrivent à se bouger le cul, c'est juste qu'ils en tirent quelque chose. Peut-être que c'est pas. Ouais. Mais en tout cas, moi, je sais que si je me booste maintenant, c'est parce que j'ai vécu des trucs pas forcément très hard. Hein. J'ai pas vécu des trucs de fou, mais. Mentalement, dans ma tête, je me suis dit, je peux pas vivre toute ma vie de cette manière. Faut que je me bouge le cul, bien sûr.
Tu sais que j'en parlais dans mon dernier podcast en solo, où je disais que, en fait, si ça marche pas pour toi, l'approche de te dire, bah, nous, on a un peu les mêmes objectifs. Nous, c'était être plus musclé, réussir sur YouTube, et
je fais pas de muscu, moi.
Je fais pas de muscu, arrête tes conneries.
Tout est naturel, vraiment.
Arrête tes conneries, ouais.
Je fais zéro muscu.
D'ailleurs, t'as fait une vidéo sur ta transformation physique qui a fait 5 millions de vues, ce qui est assez énorme. Mais non, arrête tes conneries. Je disais que si ça marche pas, l'objectif de dire j'ai envie d'avoir ça, je repense à un objectif de fuite. Genre, j'ai plus jamais envie de revivre ça. Et ça m'a donné plus d'énergie que de dire ah, j'ai envie juste d'avoir ça. Et quand tu me parlais de ça, genre t'as vécu des situations où tu te dis je veux plus jamais vivre ça, ouais. Donc tu fuis
ça,
un peu.
La vérité, t'as raison mec, c'est ça. Ce qui booste, c'est vraiment de plus vouloir, mec. Tu tiens un truc.
Mais je te jure, mais
c'est pas le fait de vouloir quelque chose, c'est le fait de ne plus vouloir vivre cette situation.
Mais c'est le meilleur boost en fait possible. C'est horrible cette sensation de dire plus jamais. Le fait de te dire plus jamais à chaque fois que tu t'es dit plus jamais.
Plus jamais, je vais être en bas de la liste des meufs de mon collège, frère. Plus jamais.
Bah, en effet, ça a marché, hein. Tu serais pas dans le bas du panier maintenant, tu vois.
J'espère.
Bah, non.
C'est pas.
Bah, j'espère. J'imagine.
Enfin, on leur demandera de faire une liste.
D'ailleurs, ça m'a fait penser que c'est vrai que ça traumatise. Je te jure que moi, petit, alors j'en ai jamais parlé, nulle part, mais petit, quand j'étais au collège, surtout au collège, je me disais, là, si maintenant, genre, je voyais un gars dans ma classe, je me disais, lui, si on devait faire un vote, genre, qui on doit expulser du collège par rapport à la popularité du gars, est-ce que ce serait moi qui gagnerais ou est-ce que ce serait lui? En fait, j'ai toujours besoin de savoir qui était le plus populaire, le plus apprécié du lycée par rapport à, ou du collège par rapport à nous deux. Et si je sentais que j'étais beaucoup moins apprécié qu'un gars du lycée, je me sentais mal, tu vois.
Ah ouais?
Parce que je me disais, il doit avoir un truc en plus que moi. Et ça me fait, comme tu en parlais de la liste, la fameuse liste, tu vois, ce qui fait mal, c'est le fait de se dire, je suis moins apprécié que quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment, je pense, le pire truc pour un collégien ou un lycéen. C'est ce truc de, c'est la comparaison entre est-ce que je suis plus apprécié que quelqu'un d'autre, c'est est-ce que je suis apprécié ou pas, en fait. Je pense que c'est ça le facteur numéro un. Ce que veulent les collégiens et lycéens, c'est juste être apprécié.
On veut être aimé, bien sûr, mec.
Ouais. Surtout au collège et au lycée, parce que maintenant, on s'en fiche un petit peu plus. Une fois qu'on a notre groupe d'amis, mais en effet, ouais, c'est, je pense, la peur d'un collégien, d'un lycéen. La première, c'est de pas être apprécié, quoi.
Bien sûr.
Et maintenant, je sais pas, la peur d'un adulte. Je dirais que la peur aussi de pas savoir ce qu'on veut faire de notre vie, c'est une des plus grandes peurs aussi.
C'est la pire peur, frère. Ouais. Pas savoir, ton futur pro. Franchement, le futur pro, frère, c'est ce qui peut faire le plus peur quand tu sais pas.
C'est la vie de l'adulte, c'est la peur de l'adulte, je pense.
Ah, mec.
La peur de l'enfant, c'est de pas être apprécié.
C'est sous-estimé de ouf, les gens, ils s'en battent les couilles, ils sont au lycée. Ils préfèrent réviser leur contrôle de maths plutôt que de réfléchir à ce qu'ils veulent faire de leur vie, frère. On se rend pas compte, on met pas les priorités au bon endroit. Genre, on dit, ouais, faut absolument réviser ton contrôle d'SVT. Non, tu révises ton contrôle d'SVT. Mais cherche encore plus ce taf que tu voudrais faire. C'est ça qui compte réellement.
Mais en même temps, les professeurs montrent que c'est en révisant ton contrôle d'SVT que tu vas assurer ton avenir aussi.
Oui, mais si tu sais pas où tu vas, ça sert à rien d'avoir les meilleures notes possibles. Faut savoir où tu vas après aussi.
Mais je suis d'accord avec ce que t'as dit de réviser ton contrôle et surtout de savoir ce que tu veux faire après.
Mec.
Mais de pas réviser de manière aveugle en te disant que si tu vas avoir des bonnes notes, tout va s'arranger.
Faut réviser, mais faut aussi qu'on mette plus l'importance sur qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Moi, j'étais au lycée. J'étais un des rares qui me posait vraiment la question. Tout le monde était en mode freestyle, en mode on verra. Non, on verra pas, mec. Là, c'est hyper important. Faut qu'on mette le doigt dessus. Posez-vous la question tôt. Combien de mes potes, ils sont partis dans les mauvaises études, ils ont perdu du temps, des années, de l'argent. Non, c'est important, frère. Réfléchis à ce que tu veux. Fais l'étude de tous les métiers, du salaire, qu'est-ce qu'il faut faire comme école. Renseigne-toi, ça, c'est important. Et révise tes contrôles, parce qu'il faut avoir le dossier pour. Mais réfléchis à ce que tu veux faire dans ta vie.
Je pense que la première chose à savoir, c'est déjà, est-ce que tu veux être salarié ou indépendant? Peut-être que c'est difficile à comprendre quand t'as 15 ou 16 ans.
Indépendant, mec, je pense que ça vient...
Ça vient plus tard.
Pas savoir, tu sais même pas.
Et parfois, le fait de vouloir être indépendant, ça vient une fois que t'as fait un métier salarié. Mm. Mais comme c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup, l'orientation professionnelle, je cherchais des premières étapes, tu vois, parce que c'est vrai que lire un livre de métier, ça a pas trop de sens aujourd'hui parce qu'il y a des métiers qui apparaissent tout le temps. Enfin, par exemple, je suis pas sûr que YouTubeur ou créateur de contenu sur Internet, ça apparaisse dans les listes des métiers maintenant, dans les registres officiels, par exemple.
Sûrement pas, non.
Donc, tu vois, c'est. Mais ouais, juste de suivre sa curiosité aussi, naturelle. Conseil un petit peu bête, mais je pense que ça peut marcher aussi. C'est comme ça que t'as trouvé ton... Par exemple, tu t'es un peu perdu sur YouTube au début, puis après t'as commencé à aimer la plateforme, j'imagine, et puis après tu as voulu devenir YouTuber, mais au début t'as juste suivi ta curiosité en allant sur YouTube, je pense.
Moi, je voulais faire de ma passion mon métier.
Ouais. Donc ouais, non, c'est clair. Et je t'ai pas entendu parler souvent de d'orientation pour les personnes qui suivent tes vidéos, mais du coup tu leur donnes ce message de temps en temps de d'être un peu curieux par rapport à leur avenir. T'aimerais bien donner des conseils aussi aux personnes de moins de 21 ans qui ont des problèmes d'orientation dans leur vie. Je
Pas
dis
conseiller d'orientation, mec,
Ouais, c'est
mais
vrai.
parfois en story Insta, je leur
Ouais.
dis bougez-vous cul. Ouais, j'essaie de mettre n'importe. Non, c'est pas la première fois que je le dis.
OK.
Pensez à ce que vous voulez faire plus tard, c'est important. Moi, c'est rare les gens qui ont vraiment réfléchi sérieusement et qui sont au bon endroit.
OK.
Beaucoup, ils se trompent d'orientation et faut.
Et bah, puisqu'on en parle, le message que j'aime donner, c'est aussi le ne pensez pas que si vous n'avez pas fait les choses parfaitement dès le début, que c'est foutu en fait. Parce que par exemple, je parlais avec Eric la semaine, non pas la semaine dernière, il y a quelques semaines maintenant, qui avait un parcours un peu
C'est qui Eric?
Eric Flag, pardon, Eric
Je
Flag,
ne connais toujours pas.
Eric Flag. Si, tu connais très bien Eric Flag.
Bien sûr, on l'aime.
Pardon, ouais, dédicace à Eric. Eric Flagg qui me parlait de son parcours qui était plus en dents de scie que ce que j'imaginais, et maintenant tu vois qu'il a 31 ans, bah ça se passe très bien pour lui. Mais c'est vrai qu'il a commencé YouTube à 27 ans, et de 19 à 27 ans, de 18 à 27 ans, bah il a eu plein de, il faisait les choses un petit peu à moitié. Il me disait il était dans le courant, il disait. Et c'est vrai que cette faculté de l'être humain à ne pas vouloir faire les choses à fond, à partir du moment où t'as foiré un truc, ça peut bloquer tellement de personnes, tu vois, que je préfère dire aussi que même si vous n'êtes pas eu parfaitement le parcours dès le
Faut pas se
début.
mettre trop de pression non plus.
Ouais,
Bien
vous avez
sûr,
le temps
faut
quand
y
même. Vous avez le
réfléchir
temps quand même.
sans se mettre trop de pression. Non, non, c'est ça. Faut y réfléchir parce que le but, c'est de faire les choses au mieux. Mais si tu te trompes, c'est pas grave,
Ok.
frère. Et c'est absolument pas grave. Mais ça veut pas dire que c'est pas grave, donc faut pas chercher plus que soi. Non.
Ok, c'est important. C'est important, mais vous avez le droit de vous tromper.
Bien sûr.
Ok, c'est bien ça. C'est bien comme message. T'as un message aussi pour
Tu peux pas,
la.
de toute façon, il y en a, ils sont obligés de se tromper pour savoir, bien sûr. T'es obligé d'essayer parfois.
Et de pas idéaliser aussi le
Si tu
parcours des
trompes,
autres.
ça veut pas dire que tu t'es trompé vraiment, c'est qu'il fallait tester et que c'est pas ce qui est fait pour toi.
Et de pas idéaliser le parcours des autres aussi.
Ah, faut pas se
Je te
comparer
jure que
trop, non?
ça tue, la comparaison tue, je te jure. Et j'en parlais, d'ailleurs j'avais appelé des étudiants en décrochage scolaire, et t'en avais un qui me disait je suis sûr que je sais pas ce que je veux faire, parce que il faisait des études pour être infirmier. Il me dit je suis sûr à 100% que c'est pas ce que je veux faire plus tard. Mais le fait d'arrêter cette année, je vais me sentir trop mal par rapport à mes potes qui vont, eux vont continuer leurs études, tu vois. Et moi, je me suis toujours rappelé que lorsque je voulais devenir avocat il y a quelques années, ça valait pas le coup d'avoir un parcours parfait où je finissais toutes mes études, je passais ma capacité pour de, je devenais je passais le CAPA, donc le certificat d'aptitude pour être avocat. Ça, je voulais pas avoir l'image d'un parcours parfait, donner le montrer à tout le monde que j'avais un parcours parfait pour le public en fait, enfin de l'extérieur avoir un parcours parfait et me sentir mal en tant qu'avocat à 35 ans, tu vois. Donc je dirais que ma démarche a toujours été de me dire je préfère avoir un parcours qui semble imparfait et qui pour moi m'emmène vers la bonne direction que d'avoir un parcours qui semble parfait et de finir déprimé ou dépressif à 35 ans parce que je me suis rendu compte que je suis pas au bon endroit, tu vois, dans ma vie. Donc je pense que toi, ça a été la chance comme moi de trouver assez vite quand même ce que tu voulais faire de ta vie, mais je pense que c'est un message qui pourrait passer pour les personnes qui n'ont pas encore trouvé actuellement ce qu'elles voulaient faire de leur vie.
Ouais, bien sûr.
Ouais.
Si tu sens que t'es au mauvais endroit, ça veut pas dire que t'es obligé d'aller jusqu'au bout, parce qu'au moins tu te dis j'aurais fait parcours parfait, je serais allé au bout de mes études. Non, parfois faut les
Mais je te
quitter et
jure, c'est trop
c'est comme
important.
pour tout, pour les relations, c'est pour
Ouais.
toi
Mais
pareil.
c'est la comparaison en fait. Les gens ont plus peur de. Et même dans la vie sentimentale, parfois, lorsque je voulais tenter quelque chose, tu sais que j'avais peur du rejet, par exemple. Donc un truc que je connais plus évidemment parce que maintenant,
YouTubeur.
évidemment que maintenant
Il
le
n'y a plus
rejet,
aucun
c'est
rejet.
un mot qui n'existe plus dans mon
Bien
vocabulaire, tu
sûr.
vois.
On l'a vu
Mais
là, on est sorti d'un débat. T'inquiète pas que...
jadis, lorsque je me faisais rejeter, j'avais plus peur en fait que la fille qui me rejette en parle à ses potes que du rejet en lui-même.
C'est vrai.
Et je me disais toujours, si j'étais sur une île déserte et qu'il n'y avait que moi et la fille, bon déjà, elle me rejetterait pas, j'imagine, parce que si on était vraiment plus que deux,
Ah,
bah
j'espère sinon, frère.
faut repeupler la planète à un moment, tu vois, si on est vraiment que deux. Mais surtout, je me disais, si vraiment il y avait que elle et moi sur une île déserte et que je lui demandais quelque chose, si je voulais qu'on sorte ensemble et qu'elle me rejette, je le prendrais pas mal, parce que j'aurais pas peur qu'elle le raconte à des potes. Ce qui me faisait vraiment peur, c'était encore une fois cette comparaison ou alors le fait que d'autres personnes soient au courant et que la honte en fait. Et si tu te rends compte que la plupart des personnes s'en fichent en fait de à quel point ton parcours peut sembler parfait parce que la plupart des personnes sont concentrées sur leur parcours à elles, bah, et qu'elles ont déjà leurs problèmes à elles, bah, je trouve que tu vis beaucoup mieux en fait. Surtout dans notre génération où on est très facilement au courant de ce qui se passe dans la vie des autres. Et d'ailleurs, je me rends compte aujourd'hui, mec, ma story Instagram, tu la regardes aujourd'hui, tu vois que je suis à Montpellier, tu vois qu'on allait à la salle, tu vois qu'on a passé un bout de soir ensemble et qu'on allait boire des coups. Dans ma story, il n'y a pas le moment où j'ai eu 4h30 de retard dans mon train, tu vois. Parce que je l'ai pas mis sur Instagram, ça. Et ça se passe tous les jours, je te jure. Bah, comme moi, je parle avec des personnes qui sont sur les réseaux et avec qui je parle des galères aussi, du quotidien, ça n'apparaît quasiment jamais dans les stories.
Bien sûr. Si vous savez toutes les galères que je traverse, ma vie, c'est un bordel. Et je ne montre absolument rien.
Mais en même temps,
on est tous pareils.
Mais je te jure, je trouve ça bien.
On montre que le positif. Frère, tous les youtubeurs, c'est comme nous. On est tous dans la même galère.
On est des gens normaux. Qui vivons des trucs anormaux. Mais ok. Mais je suis d'accord. Mais en vrai, c'est même pas un message nouveau, ce que je dis. Hein, parce que la plupart des personnes commencent à comprendre que ce qui se passe sur les réseaux, c'est pas la réalité. C'est quand même un message qui est souvent dit depuis des années. Mais ça me paraît important de le rappeler, tu vois. Parce que même moi, aujourd'hui, en effet, la vitrine que j'affichais sur Instagram n'était pas du tout ma journée. La journée représentative de la vraie journée que j'ai passée, où j'ai passé 7 heures en train, avec des débiles dans un wagon qui m'ont tapé.
Jamais tu pourras retranscrire ta vraie journée de façon.
Ouais. Si, je pense que YouTube le représente assez bien quand tu fais une journée type sur YouTube, que tu la montres.
Ouais, tu peux compenser en montrant que les bons moments, en enlevant les mauvais moments. Tu peux compenser, c'est sûr.
Bastu l'a montré récemment dans une vidéo où il montrait ses galères de comptabilité en tant que.
Ah putain, j'ai pas cliqué sur la vidéo.
Ah ouais, mais en gros, il montrait juste qu'il avait des factures et que ça faisait partie du métier aussi de
d'entrepreneur. C'est bien pour ça que j'ai pas cliqué sur la vidéo. Ça a l'air très très chiant dit comme ça.
C'est vrai. Mais voilà, c'est vrai que c'est cool d'en parler. Écoute, j'aime bien aussi te demander qu'est-ce que je peux te souhaiter pour cette année 2022. Si je pouvais te souhaiter un truc dans ta vie professionnelle, comment ça dans ta vie professionnelle. Il reste 7 mois. Qu'est-ce que je pourrais te souhaiter dans les 7 prochains mois de 8 mois il reste. Qu'est-ce que je pourrais te souhaiter?
Continuer pareil.
Ok.
C'est-à-dire faire des projets qui fonctionnent. Il y en a qui fonctionnent en moins bien. Rester fort pour surmonter ça et enchaîner. De toute façon, moi, je perdrai pas, mec. Même si je floppe 50 fois d'affilée, je vais continuer. Non, ce qu'il faut me souhaiter, c'est être heureux, c'est tout. Franchement, que ce soit en faisant des vidéos ou en ne faisant pas de vidéos, être heureux et vie pro, vie perso, rester fort.
Pourquoi pas trouver d'autres façons d'être heureux aussi? Est-ce que tu penses qu'il y a des nouvelles façons d'être heureux que t'as pas encore explorées? À part faire des vidéos et le sport dont on parlait.
Voyager, j'ai pas trop voyagé.
Voyager, ok. Je pense en effet que ça rend plus heureux.
Je sais pas. Faudrait tester.
Bah, tu me diras. Je suis quasiment sûr. Hein.
Ah ouais?
Je pense.
Bien.
En tout cas, ça va te rendre plus créatif et comme la créativité fait partie de ta vie, ben, ça te rend pas forcément plus heureux, je pense.
Bien sûr.
Ouais. Ok. Et ok, bah c'est tout ce
non,
que
après,
je peux...
concrètement, de millions, mais cette année, ça va pas être trop possible. Surtout par rapport à mon rythme de vidéo, ça va être compliqué. Non, non, continue ainsi, frère.
Okay.
Je me plains pas. Si juste ça continue comme ça, tu peux tellement sombrer dans ce genre de métier que juste si ça continue, c'est déjà très suffisant.
Ok.
Voilà.
Bah écoute, je te souhaite tout ça. Et j'aime bien aussi demander aux personnes que j'interview à la fin du podcast, c'était quoi la dernière chose que t'as faite qui t'a fait peur?
Ouais, là ça c'est sur ma vie perso de ouf.
Ok.
Bah
tu peux en parler ou
réapprendre
pas,
à vivre seul.
Ok.
C'est vraiment.
Après c'est ta propre
solitude. J'ai pas réussi, on va dire, c'est tellement hardcore que je suis encore dedans quoi.
T'as toujours besoin que. Qu'une autre personne te donne de l'amour pour t'en donner parce que toi suffisamment
ouais
seul,
voilà
tu peux pas
apprendre à vivre sans que quelqu'un t'aime,
ok,
c'est pas facile.
Ok. C'est un sujet très je connais pas beaucoup de personnes qui n'ont pas besoin d'un surplus d'affection pour elles-mêmes s'aimer à 100%.
Ouais, voilà, tu compenses dans ce genre de situation comme tu peux. Mais okay. Ouais, c'est toute une autre problématique qui n'a rien à voir avec la vie pro.
Ok. Ouais. Donc c'est ça la dernière chose qui t'a fait peur, c'est de. Mais vivre seul, c'est un vrai challenge hein, parfois.
Mec, j'arrivais trop à vivre seul il y a 2 ans, frère. J'étais trop à l'aise avec moi-même. Mais voilà, faut que je réapprenne à vivre seul.
Okay. En fait, c'est surtout à partir de 22h. J'ai vu un tweet, un TikTok où c'était marqué vie ma vie de.
C'est encore ça va quand c'est que à partir de 22h, frère, t'es pas encore dans le pire. Quand dès le matin, t'as du mal à vivre seul, c'est t'as du parcours à faire encore.
Ah ouais.
Ah mec.
Mais moi j'ai vécu, moi je dirais que c'est 22h là. En fait, la journée se passe très bien. Puis après 22h, c'est normalement le moment où tu peux commencer à avoir des activités plus sociales ou passer du temps avec ta partenaire. Et c'est à ce moment-là où moi c'est vraiment 22h où parfois je me dis la journée commence à prendre une autre tournure, tu vois. C'est pour ça que je pense que les gens qui se couchent à 22h30, c'est les gens qui ils veulent échapper à cette fenêtre, tu vois. Et donc pour vite se coucher vite, tu vois, avant que ça arrive. Mais ok, donc toi parfois c'était dès le matin. Ok.
Ouais. Ouais, c'est ça qui.
Ok.
Mon plus gros challenge dernièrement.
Ok. Ouais. Mais dans ce cas, je te souhaite ça. Je te souhaite ça pour 2022 d'apprécier ta propre solitude. Et en vrai, tu es quand même assez bien. T'as déjà ton équilibre avec tes créations vidéo. T'as.
Moi, peu importe les problèmes perso, YouTube, ça bougera jamais. Je serai toujours là. Il y a aucun souci là-dessus. En dépression, j'étais là. Je serai toujours là, peu importe le problème. Donc ça, y a pas de souci.
Ok.
C'est juste la santé mentale. Faut quand même y penser, tu vois.
Ok. Mm. Et tu donneras un dernier conseil pour les personnes pour améliorer sa santé mentale. C'est trop vague. Ça dépend trop des personnes, tu penses?
Compliqué. Ah ouais, un conseil général pour améliorer sa santé mentale. Ouais. S'occuper de sa santé mentale, mais sans. Tout des, je sais pas, frère, ouais, compliqué.
Pas les habitudes classiques, lecture, méditation, balade, ça a marché pour toi?
Ouais, moi, ce qui a marché pour moi, c'est déjà de pas lâcher taf, de pas lâcher des trucs qui seront dans tous les cas toujours là dans ta vie. Dans tous les cas, dans ta vie, tu vas devoir taffer. Donc ça, faut jamais délaisser, même quand t'es mal. Ouais, garder tes habitudes, investir sur toi-même, à fond. Toujours s'occuper, Ouais, il y a des trucs qui peuvent revenir, toujours s'occuper, sortir, vivre, et je pense, et un truc que j'ai pas encore testé, mais c'est voyager, voir qu'il n'y a pas que l'univers que tu connais, que le monde
est plus grand que.
Bien sûr, qu'il n'y a pas que les gens que tu connais, enfin, ouais.
Okay.
Le monde, il est grand, quoi.
Ok, c'est bien comme conseil, je pense. Et ouais. Donc, ouais, de s'améliorer soi, parce que soi-même, on existera toujours dans notre vie. Ça bougera pas, on sera toujours là, genre notre
exact.
Corps sera toujours là, notre esprit sera toujours là. Donc ok, intéressant comme conseil. Bah écoute, c'est un très bon conseil pour finir ce podcast. Et merci d'avoir parlé de tout ça de manière honnête.
Merci à toi de m'avoir invité sur ton podcast, le podcast de Grégoire Dossier. Mettez des likes si vous êtes sur YouTube. Mettez un commentaire si vous êtes sur les plateformes de musique.
C'est
important de soutenir.
C'est ça. Et donc toi, on peut te retrouver sur YouTube, Arthur Moza, sur Spotify également. Parce que t'as sorti des projets musicaux.
Je suis rappeur.
Ouais, il y a la plaque de ton dernier. Non, c'est ton avant-dernier album là qui est.
C'est mon premier projet, bien sûr.
Non, c'est pas un album. Ça s'appelle comment?
Si, c'est un album.
Album. Je crois qu'il y avait un autre nom.
Il y a un EP.
Un EP.
C'est celui-là, okay. Celui
okay,
qui est là-bas.
Ok, c'est le dernier. Ok, ça marche.
Il est pas dans le.
Donc, on peut te retrouver sur les plateformes de musique également et sur YouTube Arthur Moza pour toutes les expériences.
Ouais, après les plateformes de musique, on s'en bat les couilles. Hein. Je suis pas rappeur, on s'en fout.
Mais voilà, faut regarder tes vidéos
YouTube,
pour comprendre.
Il y a que ça.
Ça marche. Ça marche. Bah écoute, merci beaucoup pour le podcast et
merci à toi.
On se retrouve très bientôt dans le prochain épisode et puis dans quelques jours pour les auditeurs du podcast. Et puis merci à toi pour encore une fois pour avoir parlé de tout ça.
Merci à vous d'avoir écouté. Prenez soin de vous.
Ciao. Un plaisir. I don't wanna. Keep playing with you. No. I just wanna, yeah, I just wanna sustain with you. Yeah. Play no games with you. No. You're the apple in my ear, where you eat my eye, eye, eye. Every time make you leave, make me cry. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.